en précarité, une écoute de leur expérience spirituelle. Et de fait, ton ouvrage repose sur des groupes de partage de personnes en précarité qui ont accepté que leurs paroles soient enregistrées et commentées. Un troisième élément, c'est une lecture de la Bible à la lumière de cette parole des personnes en précarité. Et ton livre est rythmé par les commentaires de passages des évangiles qui évoquent les repas que Jésus partage avec beaucoup d'amis imprévus, d'où son titre « À table avec Jésus ». Et puis enfin, quatrième aspect de méthode, ton travail théologique ne se limite pas à des constats. Il essaie de revisiter les grandes questions qui sont communes à toute la théologie et de revisiter ces grandes questions à la lumière de la parole et de l'expérience des personnes qui connaissent la précarité. On peut dire que l'apport théologique dans ton ouvrage est discret, ce qui le rend très accessible. Mais il arrive toujours à point nommé pour éclairer une question, pour approfondir une intuition, pour commenter une parole, etc. Alors évidemment, en relevant ces quatre points, je n'ai pas résumé le livre que tu vas nous présenter maintenant. Ça signale simplement quelques éléments de méthode qui sont communs à notre équipe de recherche, mais que bien sûr tu as agencé et travaillé à ta manière propre. C'est pourquoi, Laure, nous sommes impatients de t'entendre. À toi la parole.
Merci beaucoup. Donc, dans ma prise de parole, je propose de faire ça en quatre temps. D'abord, vous dire un petit peu comment est née l'intuition de ce livre. Et puis, je dirai quelques mots sur la structure du livre. Ensuite, je ferai un focus sur ce que j'ai reçu des personnes de la Fraternité Saint-Martin de Tours pour lire les Écritures. Et enfin, je vous partagerai mes conclusions théologiques autour des repas en Église comme commencement du festin eschatologique dès maintenant dans l'histoire. Alors, comment est née l'intuition de ce livre ? Depuis les premiers temps de la vie en Église, les repas pris ensemble ont constitué un lieu important de la vie ecclésiale, suscitant au sein de l'Église des dispositions d'accueil, d'attention aux plus vulnérables, d'entraide mutuelle. On repère vraiment qu'au cœur de la vie chrétienne, tout au long de la tradition de l'Église, il y a cette habitude de manger ensemble, de partager le repas. Mais dans le sillage de Diaconia 2013, servant la fraternité, les repas partagés ont pris ces dernières années une expansion et une profondeur renouvelées. C'est à partir de ces expériences de repas ensemble, avec des gens très divers, que des questions se sont éveillées en moi. Et cela en particulier en voyant qu'à l'occasion de ces repas, un certain nombre de personnes à la vie très difficile ont l'expérience d'être accueillis avec sollicitude, d'être écoutés, estimés, et à partir de cela, ces gens qui vivaient très en retrait par rapport à la vie sociale ou par rapport aux rencontres paroissiales commencent à goûter ces lieux de rencontre. Et certains se mettent même à participer avec bonheur à ces repas. Et parfois, au bout d'un long temps ou d'un très long temps, grâce au climat de bienveillance, certains vont advenir à une capacité de parole et d'échange avec les autres. Et ça a fait surgir en moi cette question. Mais qu'est-ce que c'est cette commensalité ecclésiale ? Qu'est-ce qui se joue dans cette hospitalité à des personnes fragiles autour de la table ? Qu'est-ce que ces repas leur font vivre ? Et qu'est-ce qu'ils font vivre à nos communautés chrétiennes ? Et en écho à cela, je repérais que dans les évangiles, à tout bout de champ, Jésus est à table. Enlevez donc les récits de repas des évangiles, il ne reste plus beaucoup de pages. C'est comme ça que j'ai commencé à échanger avec des personnes du réseau Saint-Laurent et du diocèse de Tours. J'habitais dans ce diocèse quand ma recherche a commencé en 2020. D'une part, je cherchais ce que les animateurs voulaient faire vivre aux personnes en suscitant de telles rencontres ecclésiales. et d'autre part, je cherchais à écouter ce que les gens très malmenés par la vie recherchaient en venant à ce type de rencontre en église. Et ce premier moment de question m'a conduit à un étonnement. La plupart des personnes en précarité et presque tous les organisateurs voyaient dans ces repas des lieux où on est égaux, où se vivent de la fraternité, de la bienveillance, où quelque chose de bon se vit dans les liens interpersonnels. Mais très peu de personnes faisaient le lien entre ces repas, ce qui s'y vivait de bon en église, et le festin du royaume de Dieu. Alors que pour moi, c'était comme une évidence. Et du coup, ça a suscité mon questionnement. À partir de ce moment, j'ai voulu me mettre à l'écoute des récits d'évangiles où Jésus est à table et parle avec ses disciples et avec d'autres gens. Et je désirais aussi entendre comment des personnes très fragilisées lisaient ces textes. À cette époque, donc je participais à la fraternité Saint-Martin de Tours, avec Brigitte, avec Françoise, et je crois que c'est tout de la fraternité. Mais voilà, je participais à la fraternité Saint-Martin de Tours, une fraternité où les personnes vivant la grande précarité et d'autres qui n'ont pas cette expérience partagent ensemble chaque mois la parole de Dieu, un repas et l'amitié. Et c'est donc elle que j'ai choisi d'écouter. Quel lien faisait-elle entre les récits des repas de Jésus et les repas que nous vivions ensemble chaque mois à la fraternité? Et éventuellement aussi, quel lien faisait-elle avec le festin du royaume? C'est ainsi que j'ai proposé à Brigitte Bécard et à Marie-Agnès Lecoffre, avec qui nous animions la fraternité, que nous fassions pendant une année des partages de la parole autour des récits d'évangile parlant des repas. Et au fil de l'année 2020-2021, vous vous souvenez, c'était l'année du Covid, les confinements et tout ça, et on faisait ça dans la cathédrale glaciale, mais on a maintenu le cap, nous avons ainsi partagé sur 10 récits de repas dans les évangiles, et au terme de l'année, j'ai parlé de mon projet aux personnes de la fraternité qui m'y ont encouragée. J'ai alors décidé d'essayer de travailler la question des repas ecclésiaux dans le cadre de ma recherche théologique académique, et c'est ainsi que je me suis mise à travailler à ce livre à l'été 2021. Brigitte Bécard vous parlera dans quelques minutes de l'expérience de ces repas vécus en Église. Pour moi, ce que j'y vivais avait vraiment le goût du festin du royaume de Dieu. Je percevais que nous commencions à donner corps à quelque chose du mystère du royaume de Dieu et à le célébrer par notre joie de partager le repas ensemble. Riches et pauvres, jeunes et vieux, personnes qui vont bien et personnes cabossées par la vie. Et c'est ainsi que je me suis mise en route. Et donc il y a quelques mois, j'ai abouti à ce livre qui est sorti demain. Il n'est pas sorti encore. Comment est construit le livre? Il y a d'abord une introduction intitulée « Comme lui, nous avons partagé la table ». Ces pages constituent une sorte de porche d'entrée. J'y propose un parcours dans le diocèse de Tours pour regarder diverses sortes de repas partagés. Et j'achève cette première section par l'étonnement que j'énonçais à l'instant. La plupart des personnes disent que ces repas sont une réalité bonne à vivre, source de vie, faite de fraternité et d'égalité entre tous, mais seulement l'un ou l'autre évoque la réalité du royaume de Dieu en lien avec ce qui s'y vit. Je me mets alors à lire les Écritures pour explorer le sens que Jésus a voulu donner à ses repas avec ses disciples. Et je déploie alors 6 chapitres. Chacun porte sur un récit de repas où Jésus est à table avec un certain nombre de convives et parle avec eux. Le livre permet ainsi de lire 6 pages de l'évangile de Luc. D'abord, la rencontre de Jésus avec Lévi, suivi d'un festin qu'il offre à tous, puis la multiplication des pains, puis la soirée chez Marthe et Marie, puis l'invitation à dîner chez un pharisien, qui est l'occasion pour Jésus d'appeler à cesser d'inviter les gens du même milieu, mais au contraire, à se risquer à inviter les pauvres. Ensuite, le repas de la scène, et enfin le repas d'Emmaüs. Et donc à travers ça, je suis la vie de Jésus, du début de sa vie publique, jusqu'au mystère de sa mort et de sa résurrection. Pour chaque récit, je l'étudie en repérant sa structure et en prenant appui sur un certain nombre de travaux exégétiques. Puis, j'analyse les échanges et les commentaires faits par des membres de la Fraternité Saint-Martin sur ce texte. Et à partir de là, je pousse plus loin l'analyse théologique de ce passage de l'Évangile. Nourri de cette lecture personnelle des Écritures qui s'approfondit à la lumière des paroles des amis de la Fraternité Saint-Martin, peu à peu a mûri en moi une compréhension de l'enjeu des repas pour Jésus. J'ai découvert que tous ces repas sont placés sous l'horizon du festin du royaume, et j'ai compris que Jésus livre entre nos mains le déploiement du festin du royaume dès aujourd'hui dans la vie de ce monde. C'est ainsi que j'aboutis à la dernière étape du livre que j'ai appelée « Ouverture, le festin du royaume commence ». Après une reprise des apprentissages faits à la lecture des 6 repas de Jésus, je débouche sur une réflexion plus globale sur le festin du royaume et les implications et appels que cette compréhension du royaume engendre pour l'Église aujourd'hui. Il revient à l'Église de contribuer à donner consistance dès maintenant dans l'histoire au festin eschatologique. Voilà pour les 3 grandes étapes. Donc, une analyse de terrain pastoral en une 30aine de pages, puis une traversée de 6 récits évangéliques pendant environ 150 pages, et puis finalement une 30aine de pages d'ouverture théologique sur le festin du royaume. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur cette expérience de lire les Écritures à l'école des personnes marquées par la grande pauvreté. Que puis-je dire sur l'expérience ? J'allais dire spirituelle. Mais oui, j'ai vraiment vécu une expérience spirituelle et théologique en lisant ces évangiles des repas de Jésus à l'école des membres de la Fraternité Saint-Martin. En fait, leur interprétation des Écritures m'a toujours amené plus loin, plus profond que tout ce que je pouvais découvrir par ma propre lecture du texte et par la lecture des exégètes. J'en suis établie dans une profonde gratitude et aussi dans de l'étonnement de me sentir beaucoup déplacée et rejointe par ce qu'ils disent. Et je crois que la meilleure manière de m'expliquer de cela est de vous donner quelques exemples. Donc, dans le chapitre sur le récit de la multiplication des pains, j'analyse le récit à l'appui de théologiens comme Camille Faucan et Christophe Pichon, puis je me mets à lire le commentaire du récit des personnes de la Fraternité Saint-Martin. Et qu'est-ce qui se passe dans leur analyse ? Le groupe s'arrête sur la distribution par les disciples du pain béni et rompu par Jésus et cherche à en approfondir la signification. Les personnes ne voient pas les disciples comme des intermédiaires entre Jésus et la foule, selon une perspective assez usuelle chez les exégètes. Mais ils développent d'autres catégories pour penser ce don du pain par Jésus aux foules par les mains des disciples. Comment énonce-t-il cela ? Eh bien, ça commence ainsi. Vincent invente un mot pour rendre compte du sens qu'il y donne. C'est un miracle entre Jésus et les disciples. C'est un co-miracle. Et Françoise ajoute, Et aussi celui qui a offert le pain. Et Fabiola continue. Non, mais c'est aussi parce qu'il a levé les yeux au ciel. Et Olivia souligne. Oui, mais il y a aussi les disciples. Et ainsi le groupe repère que ce n'est pas Jésus tout seul qui accomplit le miracle, mais qu'il l'accomplit ensemble avec le Père, vers qui il lève les yeux, avec les disciples qui ont collecté le pain et les poissons et à qui il confie la distribution, et avec ceux qui ont offert les pains et les poissons. Ainsi, le groupe avance le concept de co-miracle, un concept original, qui dit bien qu'il faut le concours de tous pour que tous reçoivent du pain en ce lieu désert. Donc vous voyez, quand je dis que les personnes me conduisent à lire plus loin et autrement, c'est d'expression de ce type que je veux parler. Alors que la tradition exégétique s'arrête plutôt sur la dynamique d'initiation des disciples par Jésus, ou sur la manière dont Jésus positionne ses disciples en intermédiaire entre lui et le tout-venant, les personnes de la fraternité voient dans tous ceux qui interagissent dans le cadre de cette multiplication des pains des acteurs d'un co-miracle où chacun contribue de telle sorte qu'à la fin, toutes les personnes assemblées dans le désert reçoivent du pain en abondance. Je continue. Un petit peu plus loin, dans le texte, le récit évangélique évoque qu'il reste 12 corbeilles après le rassasiement de tout le monde. Les exégètes, ils vont faire le lien avec le cycle d'Élie, y voir un signe de la sollicitude de Dieu qui se dit par cette abondance. D'accord. Les personnes de la fraternité ne vont pas trouver que cette surabondance est quelque chose d'étonnant. Pour elles, c'est normal. Et donc, elles ne vont pas commenter du tout la surabondance du don opéré par Jésus. Mais elles vont s'intéresser au reste de nourriture, qui selon elles, sont distribuées par Jésus lorsque le rassemblement se termine. Et dans leur interprétation, les membres de la fraternité vont assigner une destination à ces restes. Vous souvenez qu'il y a un blanc dans le texte, il n'y a rien dans le texte évangélique, mais elles ont trouvé des éléments très intéressants. Je vous lis un petit passage. Donc c'est Fabiola qui parle. Moi, je dis que c'est bien qu'ils soient tous rassasiés. C'est normal, hein. C'est comme d'habitude à la messe. Mais qu'il en reste, c'est important pour qu'ils en ramènent, parce qu'ils marchent beaucoup, ils marchent loin, ou qu'ils en ramènent chez eux pour partager à leur tour pour ceux qui ne sont pas venus. Et elle poursuit. Ben, on est parti là-bas, il y a eu le pain et le poisson, mais on a aussi ramené pour vous. Mais un petit miracle, on a ramené une petite partie pour vous. C'est comme un parent qui pense à ses enfants, qui dit « Je ramène ça pour mon enfant, un petit bout de pain, un petit bout de gâteau. » C'est comme quand on nous donne à la fin du repas partagé. Moi, je suis fière, quand je suis partie quelque part, d'avoir un petit morceau pour mes enfants. Tu vois, je dis, j'ai été à la fraternité, je vous partage ce que j'ai eu là-bas. Parce que c'est la joie, c'est la foi, c'est la joie que j'ai eue, c'est le soleil qu'on mange ensemble et que je ramène à la maison. Parfois, c'est pas grand-chose, mais je suis fière. Fin de citation. Dans sa prise de parole, on entend une circulation des dons. Les dons sont partagés, il en reste et on donne les restes. Et la personne qui les reçoit devient à son tour donateur pour que d'autres entrent dans la joie du partage qu'elle a elle-même vécue et à laquelle elle veut faire accéder ses proches, ici ses enfants. Donc il y a une diffusion de dons, une cascade de dons, on peut dire. Et par là, Fabiola fait écho au commentaire de l'exégète Christophe Pichon qui dit que le verbe « donner » est à l'imparfait, ce qui signifie un temps qui dit la réitération et le déploiement dans le temps. Mais vous voyez comment elle le dit différemment de l'exégète. Donc voilà, je m'arrête pour ces quelques exemples, mais cela vous donne de percevoir combien lire la parole de Dieu en se mettant à l'écoute des personnes vivant la grande précarité, cela nous fait entrer dans d'autres types de perspectives d'autres manières d'entendre les Écritures. Elle nous dévoile d'autres façons de nous rapporter au don de Dieu, de vivre en Église, de vivre ensemble dans la société. Pour finir, je voudrais partager quelques-unes de mes découvertes. Qu'est-ce que j'ai appris à la lecture de ces 6 récits où Jésus partage ses repas avec d'autres en les lisant à l'école des compagnons à la fraternité Saint-Martin de Tours? Eh bien, au fil des récits, il est apparu que les repas sont un espace où Jésus engage des processus d'initiation et de formation à la communion. Il impulse une commensalité singulière et y initie peu à peu ses disciples. 3 points peuvent être relevés. Tout d'abord, par sa manière de tenir sa table ouverte à toute personne, Jésus fait entendre que tous les êtres humains sont invités au festin du royaume et qu'il n'y a aucune condition préalable pour y être accueilli. De plus, par ce qui se passe à la table où il s'assied, Jésus initie le renversement qui caractérise le royaume. Par lui, d'imminent, le royaume devient présent dans l'histoire. Pour le dire autrement, la commensalité qui se vit sur le passage de Jésus annonce que le royaume n'est plus à attendre pour la fin des temps, il commence déjà à se vivre maintenant. Et il commence déjà à changer la vie des gens, leur fréquentation, leur mode relationnel, leurs repères éthiques, leurs priorités sociales et religieuses, leur regard sur les autres. Ainsi, la joie du royaume commence à se répandre et ne demande qu'à être célébrée. Et enfin, 3e point que je relève, Jésus ne pratique pas seul cette commensalité singulière. Il y entraîne ses disciples et il leur confie de poursuivre la mise en œuvre du festin du royaume qu'il a inauguré. Au fil des repas, Jésus exerce ses disciples à partager la table avec des compagnons improbables, à vivre la rencontre de l'altérité avec ouverture et joie, à prendre soin des personnes pour qu'elles soient bien pour manger et à les servir tous. Au gré de ces expériences, les disciples apprennent à devenir serviteurs à la manière de Jésus et à être associés à lui dans ses engagements. Ils s'initient à devenir avec Jésus co-créateurs d'hospitalité, co-acteurs de communion. Dans son mystère pascal, Jésus va aller au bout du don de lui-même et il se remet entre les mains de ses disciples pour qu'ils se fassent serviteurs de tous, qu'ils dressent la table, qu'ils partagent le pain à tous en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il vienne. Et avec ses disciples, c'est chacun de nous qui est entraîné dans cette mystérieuse expérience, dans cette dynamique ecclésiale. Que faire de ces découvertes? Comment nous laisser inspirer par la commensalité pratiquée par Jésus aujourd'hui dans la vie ecclésiale? La commensalité inconditionnelle et hospitalière à tous, initiée par Jésus, fait signe que toute personne est attendue à la table du festin du royaume et qu'ainsi s'enclenchent les renversements relationnels caractéristiques du royaume. Mais comment cela peut-il se produire? Nous voyons qu'à la table de Jésus, comme dans nos tables partagées en Église, la communion se renoue entre des groupes humains qui ne se fréquentaient pas, dévoilant soudain que le royaume est en train d'advenir sous nos yeux, au milieu de nous. Et du coup, la joie de la fête du royaume saisit les cœurs et se répand. Des figures marginales, accueillies par Jésus, ayant fait l'expérience de ce bonheur d'entrer dans le reversement du royaume, se font aussitôt tête de pont, contributrice ardente, pour que la joie du royaume se déploie et en rejoigne d'autres qui ne sont pas encore rejoints. Ces derniers, devenus au centre de la fête, se révèlent dès lors des points d'appui précieux. Jésus ne veut pas rester seul dans cette dynamique au service de la communion entre tous. Il entraîne ses disciples, il les initie à la vivre et il les initie à se laisser guider par les très pauvres pour rejoindre ceux qui sont encore plus abandonnés. Quelle portée donner à cela aujourd'hui ? Si comme dans la vie de Jésus, le royaume continue à venir tout au long de l'histoire, jusqu'à la plénitude des temps, nous pouvons déjà, par nos repos, nos repas ecclésiaux, comme lui et à sa suite, donner corps dans l'histoire au festin du royaume et en donner le goût à nos contemporains. En effet, je pense que nos repas partagés donnent consistance dans l'histoire à ce qui nous est promis pour l'éternité. Il nous donne de vivre et de célébrer le royaume de Dieu qui vient dès aujourd'hui, en commençant à partager ensemble le festin du royaume sans attendre. Avec une audace étonnante, Dieu choisit de remettre le déploiement du royaume entre nos mains. Il compte sur nous pour sortir, inviter les personnes marginalisées à venir partager le repas, puis pour nous laisser guider par ces personnes très pauvres pour rejoindre ceux qui sont trop éloignés pour que nous sachions les voir, afin que tous ensemble nous nous asseyons autour de la table. Dieu remet cela entre nos mains jusqu'à ce que le dernier, celui qui manque encore, dans la salle du festin y entre, et qu'alors Jésus puisse déclarer « La salle du festin est remplie, les pauvres sont au centre de la fête, et qu'alors ils remettent cette vie en plénitude, enfin partagée par tous, entre les mains du Père. » Voilà ce que je dessine au gré des pages de ce livre et à quelle conclusion j'aboutis. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Laure pour ce parcours, pour ce beau parcours. Nous écoutons à présent une première parole que tu commentes dans cet ouvrage.
Voilà le témoignage de Delphine à propos des repas partagés vécus dans le diocèse de Tours dans le cadre du festival Saint-Martin, festival du partage. Ce repas, il y a des signes de Dieu partout. D'abord, le premier signe, c'est l'Église. À chaque fois que je rentre dans l'Église. Et le deuxième signe, c'est du monde. Jésus était entouré de monde. Et le troisième, c'est la nourriture, le repas. Et dedans, on peut faire des partages entre nous, discuter. On prend des choses qu'on n'a pas prises depuis longtemps. Tout cela, c'est vraiment le royaume de Dieu. Je le sens partout. Je le sens partout, Dieu. Je sais qu'il est là, qu'il écoute, qu'il voit. Pour moi, c'est un fait. Il est partout. Je le ressens partout. Dans les belles choses, pour moi, c'est des signes. Il n'y a que lui qui me dit ça. Des repas comme ça, c'est des signes. Après, on est mieux. On partage des repas, des discussions, et après, on va à l'église, on assiste. On remercie Dieu de la belle journée qu'on a vécue. C'est extraordinaire. On vit des belles choses grâce à lui. Il n'y a pas de hasard. Non, ce n'est pas possible.
À présent, nous allons entendre deux échos un petit peu déployés à ton ouvrage et à ta recherche, Laure. Un premier sera donné par Brigitte Bécard, un second par Étienne Grieux. Brigitte, tu es l'animatrice de la Fraternité Saint-Martin à Tours, dans le diocèse de Tours, dont Laure a déjà parlé. Une fraternité composée de personnes en précarité et d'autres qui les rejoignent pour cheminer avec elles. Et Brigitte, tu es engagée de longue date aux côtés de personnes qui ont cette expérience de la précarité à la Fraternité Saint-Martin, au Secours catholique et ailleurs. À présent, tu es invitée à nous faire part de ta relecture de ton expérience des repas partagés en Église et une relecture qui, très probablement, va entrer en écho avec le travail de Laure. À toi la parole.
Oui, mais je ne suis pas théologienne. Je parle de mon expérience de 30 ans de repas partagés, voilà, sur le terrain. Comment ces repas peuvent m'ont transformé et transforment les personnes qui viennent aussi. En préparant cette soirée, moi, j'ai pensé à des noms qui me venaient quand je pensais à ces repas que nous avons, auxquels nous participons. Alors, je vais vous dire des mots que vous retrouverez dans le témoignage. Accueillir. Sourire, inviter à venir partager, être disponible, s'ouvrir à la différence, se laisser toucher par l'autre, changer son regard, faire confiance, se respecter, faire émerger les talents, se laisser conduire, se nourrir ou se ressourcer tous ensemble, les uns par les autres, et faire grandir ma foi, faire grandir sa foi. Ce n'est pas seulement le temps du repas qui compte, c'est tout ce qu'il y a avant, l'invitation, la préparation, et il y a aussi tout ce qui en découle. Ma première expérience de repas partagé s'est passée dans le diocèse de Bourges, au petit déjeuner du Secours catholique de 1994 à 2000. Vous voyez, ça fait un petit moment. On y accueillait tous les matins, de 7h à 12h, les gens de la rue, les clochards, les gens qui vivaient dehors, pour le petit déjeuner. J'avais entendu un appel à la cathédrale de Bourges pour servir les petits déjeuners. Le premier matin, il y avait une vingtaine de personnes, il y avait deux bénévoles, une vieille dame qui avait envie de servir le café, parce qu'elle, c'était la mamie, elle jouait le rôle de mamie, elle servait, et puis un monsieur qui adorait ranger et faire la vaisselle. Et je me suis dit, ben, où est ma place ? Alors c'est ainsi que je me suis assise à table avec les personnes, offrant une écoute, un regard, un sourire, la lecture du journal, des jeux, des mots croisés, un commentaire sur la météo, le partage du café, mais aussi des paroles, souvent banales, parfois profondes, sur la religion, la politique, même la philosophie. Ils me posaient des questions, mais tu es là pourquoi ? Tu fais quoi ? Tu crois en quoi ? Voilà. Et on partageait aussi des silences, le silence. Un jour, il y a un monsieur sans domicile qui me dit « Mais vous, vous avez une famille, un travail, vous êtes inséré dans la société. Normalement, je n'aurais jamais pu avoir une conversation comme ça avec vous. » Et j'ai répondu que moi non plus. Je n'aurais peut-être pas osé l'aborder, j'aurais eu peur de lui parler s'il n'y avait pas eu ce lieu, ce repas partagé. Au-delà de la nourriture, ce lieu permettait une rencontre. Un échange dans la simplicité. On accueillait chacun par son prénom, s'il voulait bien nous le donner, et après avoir donné le nôtre, petit à petit, on se reconnaissait entre personnes humaines, avec des émotions, des peurs, des angoisses, des souffrances. Au bout de quelques semaines, ils nous ont demandé d'organiser un déjeuner mensuel. Nous avons fait ça le samedi parce qu'il y avait des bénévoles qui travaillaient en semaine. Il y avait des jeunes couples qui pouvaient venir, des familles. C'était plus sympathique. Et c'est eux qui ont organisé. Un cuisinier qui sortait de prison, un migrant, voilà. Alors pendant cette préparation, chacun participait à la mesure de ses talents. Cuisine, épluchage, décoration, vaisselle, rangement. Tout le monde s'y mettait et chacun se révélait un petit peu. Chacun révélait une facette de son talent. La simplicité permet la convivialité et on se laisse conduire par les rencontres. Je crois que je me suis trompée de page, pardon. Dans ces repas, voilà, le fait d'avoir partagé ce repas, de chanter, de danser ensemble, on changeait de regard les uns sur les autres. Grâce à ces liens, ces repas avaient des suites, parce qu'on connaissait les personnes. Un jour, à un repas, un habitué, Saïd, il dormait dehors depuis longtemps, il m'a apporté un poème. Il me dit « je t'ai écrit un poème ». Alors très vite, en le lisant, j'ai reconnu ce poème parce que je l'utilisais en catéchèse. C'est un poème d'Adhémar de Barros qui dit « Des pas sur le sable ». Et voilà, mais ça fait rien, on l'a lu ensemble, c'était très touchant. Je l'ai félicité, je l'ai remercié. Et ça a été d'autant plus touchant que Saïd est mort 2 jours après, sur un banc, à côté des petits déjeuners. Et que ses copains à SDF m'ont dit « Il faut qu'on aille à la morgue lui dire au revoir ». Et que je les ai emmenés dans ma voiture à l'hôpital et que on a lu ce poème devant le corps de Saïd et c'était vraiment très beau. Voilà, c'était la suite de notre repas. J'ai eu plein d'exemples comme ça. Ces 6 années de repas m'ont énormément marqué. Elles ont changé ma vie, vraiment. J'ai découvert chez ces personnes démunies, désocialisées, exclues, une soif d'être regardées, d'être écoutées, d'être reconnues, d'être aimé, tout simplement. J'ai découvert leurs talents, tout ce qu'ils auraient pu exprimer s'ils étaient mieux considérés, écoutés. Je les ai vus aussi grandir, se transformer sous des regards bienveillants. Ces repas pris ensemble, assis à la même table, côte à côte, permettaient de se regarder au même niveau. Il n'y avait pas un au-dessus de l'autre, on était au même niveau. Et on découvrait qu'on était tous affamés de quelque chose. De quelqu'un. On crée une relation, une confiance dans un respect mutuel. Moi, j'étais venue pour donner de mon temps, mais j'ai reçu dans ce lieu des leçons de vie et découvert que les personnes dites pauvres ont des trésors de richesse dans le cœur. Comme dit Marie-Vonne Caillot, qui est là, qui a écrit un livre magnifique, nous sommes des orpailleurs. Chaque personne a en elle une pépite. Mais cette pépite, elle est parfois recouverte par la boue, de l'humiliation, de la détresse, de la souffrance, de la peur. Et nous avons à la chercher, à découvrir en chacun de nous cette pépite, en particulier chez les personnes qui ont des choses lourdes par-dessus la pépite. Arrivée dans le diocèse de Tours en 2003, je n'ai eu de cesse de créer des lieux de partage autour d'un repas. Alors les tables ouvertes paroissiales qu'on a mis en place avec le Secours catholique, et puis plus tard, en 2011, ce dont on a parlé tout à l'heure, le Festival Saint-Martin, Festival du Partage, dont je vais reparler, puis un Noël pour tous, et enfin en 2013, la Fraternité Saint-Martin de Tours. Déjà une première expérience, en arrivant en 2003 à la délégation de Tours, j'ai découvert c'est une maison avec 2 étages et un sous-sol, et dans le sous-sol, il y avait 40 migrants qui avaient été mis là parce qu'il n'y avait plus de place nulle part, mais ils étaient dans une salle avec une douche, c'était très compliqué. Et puis au premier étage, il y avait les bénévoles et les salariés, et au deuxième étage aussi. Et ça communiquait pas du tout parce que les bénévoles et les salariés, ils avaient peur de cette masse de migrants qui arrivaient et qui étaient là. Donc mon premier rôle, c'était de faire pour Noël un repas partagé. C'est-à-dire que les migrants sont montés au premier, les autres sont descendus, et on a fait tous un repas ensemble. Parce que je me disais, on va pas vivre Noël comme Jésus, Marie, Joseph qui étaient exclus à l'auberge. Nous, ils sont exclus dans le sous-sol, on va les faire monter, voilà. Et ce repas a été magnifique. parce que les bénévoles ont pu mettre des noms sur les visages, ils ont pu reconnaître les personnes qui étaient là, et c'était plus des migrants, c'était Kouliran, c'était Volodia, c'était Amine, voilà, c'était des gens, c'était des personnes. Ce repas a été magnifique, on s'est terminé par des chants et des danses. Mais le lendemain, je parle pas que des malheurs, mais un jeune Arménien est tombé dans le coma. Et ce qui était beau, c'est que grâce à ce repas, il était connu maintenant des gens de la délégation qui ont pu accompagner la famille. Ce jeune homme a été dans le coma pendant 3 mois. Et je fais une petite parenthèse pour raconter une belle chose. C'est qu'un jour où j'accompagnais son papa à l'hôpital, j'allais le chercher. Et ce père venait de voir, il avait déjà perdu un fils à la guerre en Arménie. Ce père venait de voir son fils qui sortait du coma mais ne le reconnaissait pas, c'était affreux. Et dans la voiture, il pleuvait des cordes et je râlais contre la pluie. Et ce monsieur me dit, mais Brigitte, c'est Dieu qui pleure avec nous. Et c'était tellement beau parce que ce monsieur aurait pu se révolter contre un Dieu injuste qui lui avait infligé ce malheur, mais il ne voyait que la tendresse de Dieu. Je voulais raconter parce que c'est trop beau. Les tables ouvertes paroissiales que nous avons mis en place, on les a proposées aux paroisses avec un mode d'emploi très simple. En fait, c'est le Secours catholique qui a établi ce mode d'emploi. Il faut un lieu, une date, une équipe qui accueille et prépare, et tout le monde peut décorer, mettre le couvert, faire la cuisine, apporter quelque chose à partager. Il suffit d'inviter. Alors oui, il faut oser inviter le clochard qui est à la porte de l'église, il faut oser inviter des gens qui sont en difficulté, qu'on connaît pas bien, inviter et accompagner. La simplicité permet la convivialité et on se laisse conduire par les rencontres. Alors quelques paroisses s'en sont emparées, il y a eu quelques exemples de tables paroissiales qui ont duré quelques années, maintenant il y en a un peu moins, mais ça reviendra peut-être. Et puis au Secours catholique, on faisait des repas aussi. On avait un accueil de femmes et enfants qui sortaient de la rue. Et donc on faisait des repas avec elles. Et en particulier avec notre aumônier, le 24 décembre au soir, on faisait une soirée pour ces personnes. Et on échangeait sur Noël, on mangeait quelques friandises. Et moi je disais à Jean-Pierre l'aumônier, mais c'est tellement beau ce qu'on vit ici, il faudrait que les paroisses le vivent. Le soir de Noël, dans les paroisses, ça devrait être autrement. Alors, une fois nommée déléguée à la solidarité dans le diocèse, j'ai pu concrétiser cette idée. Mais je vais refaire une parenthèse pour dire que, en 2011, avec une amie, Annick, nous avons mis dans le diocèse, dans la ville de Tours, en place la visitation à la rue. Nous l'avons pas appelée maraude, nous l'avons appelée visitation à la rue. Parce que c'est pas une maraude, on va vers les gens les mains nues, juste avec un sourire, pour leur demander de leurs nouvelles, pour faire connaissance, pour parler avec eux. Et quand on y va deux par deux, comme les pèlerins d'Emmaüs, tous les mardis, j'y étais hier, et avant-hier, et on apprend à connaître ces gens. Et avec tous ces liens qu'on crée, nous les invitons à nos repas. C'est beaucoup plus facile puisqu'on les connaît et qu'ils nous connaissent et qu'on se respecte mutuellement. On les invite même dans une église avec leurs chiens et il n'y a pas de problème. Voilà. Alors le 11 novembre 2011, c'est notre fête diocésaine, c'est la Saint-Martin le 11 novembre, donc c'est une grande fête. Nous avons reçu la visite de la diaconie de Toulon avec Gilles Rebèche, un diacre bien connu ici je pense. Et pour les accueillir, nous avons décidé de faire un repas dans une église. Alors on a cherché une église qui n'est pas désaffectée mais qui n'est pas une paroisse. Et nous avons invité largement les paroissiens du diocèse, les migrants, les gens dans des associations, des personnes à la rue, des jeunes des aumôneries, des scouts, etc. Nous ne savions pas qui viendrait. C'était la première fois qu'on faisait ça. On a préparé de la soupe pour 200 personnes, 250, et demandé à tous les gens d'apporter quelque chose. Eh bien, ça a été une réussite, tellement qu'il se renouvelle chaque année. Et cette année, nous étions 480. Dans l'église, avec des ASF, avec des chiens. C'est devenu une institution diocésaine. Cette année, on avait même 40 séminaristes d'Orléans. Donc c'était beau aussi. Et puis mon vieux rêve de la veillée de Noël s'est concrétisé aussi en 2011, puisque avec deux amies, une de la Croix-Rouge et une responsable d'un café associatif pour les gens de la rue, nous avons mis en place le Noël pour tous. Alors la mairie nous a prêté un lieu, dehors, parce que nous voulions que ce soit un Noël dans la rue, avec les personnes dans la rue. On nous a prêté un lieu à côté d'une église. Et voilà, on a préparé notre repas. On a lancé, comme on avait fait à l'église, on a lancé des invitations. Et puis on a dit, on fait la soupe et le reste, ça sera apporté par les personnes. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, nous sommes dehors de 18h à 23h le 24 décembre. Et il y a beaucoup de paroissiens, beaucoup de gens qui veulent venir aider, qui veulent passer un Noël autrement. Donc Noël dernier, nous étions aussi 350 dans la rue. Et j'accueille tous les bénévoles, on avait plus de 80 bénévoles, et de plus en plus de gens, de jeunes, pardon, qui veulent donner du sens à Noël. Des gens qui disent « je veux passer un Noël autrement avec vous ». Ce Noël a été mis en place, bien sûr, en priorité pour les personnes à la rue, puisque c'est celles que nous rencontrons. Ils viennent, ils sont fidèles, ils ont leur table, ils savent où ils vont être. Et la mairie a changé de lieu. On est maintenant dans un lieu en plein centre-ville, ancien de Tours. C'est magnifique. Et voilà, c'est près de la basilique. On est au pied du tombeau de Saint-Martin. Ça peut pas être mieux. Donc c'est magnifique. On peut aller à la messe à 21h, ceux qui veulent. La fête continue pour ceux qui ne vont pas à la messe, mais on peut aller à la messe. Et j'ai souvent été accompagnée de SDF. Comme on y va en procession, ils se joignaient à nous et ils venaient dans la basilique à 21h à la messe de Noël. Et ils veulent partager ce moment avec nous dans l'église. Alors une autre anecdote, c'est enfin une histoire triste mais belle. Il y a 4 ans, une jeune femme qui était dans la rue, Laure, elle est venue avec son chien dans l'église. Moi, j'étais devant, elle était restée derrière. Et au moment de la communion, j'entends le chien aboyer. Je me suis dit, bon, on va aller voir. Et en allant voir Laure, je lui ai dit, tu sais, c'est le moment de la communion. Elle m'a dit, ah oui, moi j'ai fait ça quand j'étais jeune, j'ai communié. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu voudrais communier encore? Et je vais peut-être choquer des gens, hein. Mais je lui ai dit, est-ce que tu voudrais communier encore? Et elle m'a dit, oui, je voudrais communier. Donc, elle est venue communier avec moi. Et 15 jours après, elle est morte d'overdose. Donc nous avons fait une très belle célébration dans la rue pour elle. Et voilà, elle avait communié juste avant. Une année au repas de Noël, il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient venus pour servir. Et un monsieur, Pierre, me demande, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais moi, j'ai pas de tâche précise à lui donner. Puis j'étais un peu énervée ce jour-là. Je lui ai dit, écoute, je sais pas ce que tu peux faire. Tu sais, t'es pas obligé de venir... faire pour, tu peux aussi t'asseoir avec les gens, c'est servir aussi ça. Elle me dit, bon, je vais essayer de m'asseoir avec les personnes. Et à la fin de la soirée, Pierre revient transformé. J'ai compris, me dit-il. Je n'ai jamais passé un aussi beau Noël de ma vie. J'ai écouté et partagé ce repas. Je me suis sentie accueillie par ces personnes, moi aussi. Maintenant, je comprends la différence entre faire pour et être avec. Je n'oublierai jamais. Merci. Cet homme a témoigné plusieurs fois de ce moment de joie et de conversion au contact des plus démunis. Alors ces repas visent aussi à rompre l'isolement pour des personnes en situation d'exclusion. Si elles se sentent accueillies, elles auront le sentiment d'exister pour quelqu'un. Un jour aussi, il y a un homme qui arrive tout seul, en retard, mal habillé. Il n'avait pas très envie d'avancer. Et on va l'accueillir et il dit... J'étais inscrit, il n'y a pas d'inscription, mais il avait l'impression de s'être inscrit. Mais je n'osais pas venir car je suis mal habillée, je vis seule, j'espère qu'on va pas me parler de politique. La peur du regard des autres, la peur de devoir entrer en conversation, ça demandait un très grand effort à cet homme de venir à ce repas. Une personne solitaire, elle peut avoir peur de la relation ou bien elle n'y croit plus. Plus ou moins consciemment, elle se rend moins aimable par son apparence. Par son apparence physique, son comportement, alors que zachée de la précarité, elle ne demande qu'à descendre de son arbre. Je ne sais plus où j'ai pris cette phrase, mais je la trouvais très belle. C'est peut-être toi, non? Zachée de la précarité, elle ne demande qu'à descendre de son arbre. En 2013, après Diaconia 2013, servant la fraternité, donc nous avons créé la Fraternité Saint-Martin de Tours. C'est un lieu de partage de la parole de personnes connaissant la précarité sous formes diverses. Matériel, beaucoup, intellectuel, physique, psychique et même spirituel. Une fois par mois, nous partageons un repas où chacun apporte ce qu'il peut. Un témoignage d'une participante? Moi, j'y pense plusieurs jours à l'avance pour savoir ce que je pourrais apporter de bon à partager. Voilà, c'est la préparation. Ces repas sont au moment où les personnes peuvent souffler, se reposer, être avec d'autres. On fête les anniversaires, on chante le bénédicité, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, c'est notre bénédicité. De toutes ces expériences et ces témoignages reçus au cours de ces années, je suis convaincue que ces moments de repas partagés favorisent bien sûr une mixité sociale, générationnelle, culturelle, rompent l'isolement, permettent le bien vivre ensemble. Mais ils sont aussi source de vraies rencontres. Si l'on y participe avec la volonté d'accueillir et de se faire accueillir, d'écouter et de se rendre disponible humblement, on va apprendre de l'autre et découvrir ses richesses cachées au premier abord. Ils sont aussi source de transformation personnelle, pas seulement pour nous, pour toutes les personnes qui participent. Au fil du temps, nous les voyons être transformés par ces temps vécus ensemble. C'est vraiment un chemin de conversion spirituelle. Ces repas sont pour moi une eucharistie, une communion, où tous ensemble, nous redécouvrons que nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Je crois que ce cœur à cœur avec une personne autre, souffrante, exclue, c'est vraiment un chemin vers le cœur du Christ, qui n'est qu'accueil et amour.
Merci beaucoup Brigitte pour ce témoignage. Nous écoutons une seconde parole qui est commentée dans le livre de l'or.
Voilà un commentaire du récit du repas de Jésus qu'il prend chez Marthe et Marie. Je vous lis ce qu'en dit Gisèle et son échange avec l'or qui animait le partage. Alors, Gisèle dit, en fin de compte, Marthe est très fatiguée parce qu'elle fait tout le travail. Et puis, en fin de compte, elle voit que sa sœur Marie, en fin de compte, il y en a une qui est assise, agenouillée auprès de Jésus, mais Marthe demande à Jésus de lui demander de l'aider. Parce qu'elle est tiraillée à force de travailler. Et peut-être qu'elle est épuisée, fatiguée. Peut-être aussi, elle ne comprend pas. Peut-être pas pourquoi sa sœur ne fait rien. Et elle fait tout, quoi. Marthe est peinée. Laure l'interroge. Elle est peinée? Explique-nous ce que tu veux dire, Gisèle. Elle a de la peine parce qu'elle ne peut pas participer à la discussion. Laure, tu sens qu'elle a de la peine et qu'elle aimerait bien être à la discussion aussi? Tu sens ça? Gisèle, oui, mais comme elle fait la cuisine, elle regarde derrière parce que dans son cœur, elle aimerait bien écouter elle aussi. Peut-être elle pense que c'est intéressant, mais elle n'a pas le temps. Elle n'arrive pas à écouter. Elle ne peut pas participer.
Nous allons à présent écouter Étienne Grieux. Étienne, tu es jésuite, professeur de théologie aux facultés Loyola Paris, dont tu as été le recteur. C'est toi qui as largement initié cette manière de travailler en théologie à l'écoute de personnes qui connaissent la précarité. Alors tu vas maintenant donner ton écho à l'ouvrage de l'or, c'est-à-dire nous faire part de ta lecture de ce livre en tant que théologien.
Merci beaucoup François. Et puis merci à l'or pour ce livre qui nous fait goûter les joies de rencontres évangéliques. Et puis j'ai envie de dire aussi merci à Brigitte pour ce que tu nous as partagé et qui révèle, je trouve, des trésors vraiment qui sont vécus à l'occasion. Voilà, des choses extrêmement fortes. Voilà, les rencontres dont il est question dans cet ouvrage de l'or, c'est pas n'importe quelle rencontre puisqu'il s'agit de repas. Alors Christophe Théobald a une expression, il parle souvent de la pastorale de la fourchette. Pour souligner l'importance de ces moments de convivialité pour l'Église. Et l'or, tu évoques les tables ouvertes paroissiales et d'autres temps de retrouvailles autour d'un repas qui participe de cette pastorale de la fourchette, mais avec des accents particuliers puisqu'elle rassemble des personnes en grande précarité et aussi des personnes mieux insérées dans la société. Voilà. Dans ton livre, tu montres l'enracinement évangélique de ces temps de convivialité et tu signales le lien entre les repas partagés et l'annonce du royaume. Voilà, tu nous en as partagé quelque chose tout à l'heure. Alors on pourrait se demander, pourquoi donc les repas ont-ils cette capacité à parler du don de Dieu et de ce qu'il transforme dans notre réalité humaine? C'est que, comme l'or l'indique dans son livre, manger ensemble, en fait, c'est tout sauf anodin. D'abord, manger, c'est assurer que la vie va pouvoir continuer. Si on ne mange pas, si on ne mange plus, on meurt, hein. Et puis, quand on mange, on fait passer à l'intérieur de notre corps ce qui était à l'extérieur. Ce qui n'est quand même pas rien. C'est une opération délicate qui n'est pas sans risque. On peut s'empoisonner en mangeant des choses mauvaises. Et donc, manger ensemble suppose aussi une grande confiance, finalement. Et puis, manger, c'est aussi source de plaisir. Le plaisir de goûter, de savourer. Et ce plaisir, il est décuplé quand il est partagé avec d'autres. Tout cela fait des repas des moments à la fois très importants pour la vie et des événements de rencontre extrêmement forts. C'est pas étonnant donc que l'accueil du don de Dieu soit associé à des repas qui symbolisent à la fois la vie donnée et la manière dont nous pouvons l'accueillir ensemble par-delà tout ce qui peut nous maintenir à distance les uns des autres. Merci donc, Laure, d'avoir mis cela en relief. Et c'est d'autant plus mis en relief que les repas dont tu parles concernent des personnes qui auraient toutes les chances du monde de rester à grande distance les unes des autres, si elles n'avaient entendu une bonne nouvelle qui les a invitées à se réunir autour de ces repas. Ton livre, l'or, permet aussi de découvrir un peu ce travail d'écoute des personnes marquées par la grande précarité qui passe aussi par la lecture de la Bible. Quand tu commentes un texte biblique, tu commences par en faire une lecture, on pourrait dire, de type exégétique, à partir de commentateurs autorisés, des biblistes, et aussi à partir de ton propre regard. Et puis tu nous partages les commentaires des membres de la Fraternité Saint-Martin. Et on assiste donc à leur découverte du texte, on entend leurs questions, on voit aussi des lectures parfois divergentes entre eux. Et puis, peu à peu, se dessine une ligne d'interprétation qui sera adoptée par le groupe. Voilà, il me semble que tu nous donnes à voir un travail d'intelligence collective, tout à fait passionnant. Et tout cela permet d'entendre les différences d'accentuation entre deux grands types de commentaires, les commentaires exégétiques et ces commentaires venant de personnes en grande précarité. Alors, on en a déjà entendu plusieurs exemples, mais je vais en donner un autre, à partir aussi de l'extrait qu'on vient d'entendre, lu par Marie-Vonne. Dans le commentaire du récit qui oppose Marthe et Marie, On sent chez les personnes qui connaissent la pauvreté à la fois une grande sensibilité à l'attitude toute d'écoute de Marie qui a pu faire la paix en elle pour être entièrement disponible aux visiteurs. Mais quand elle s'intéresse à Marthe, loin d'y voir quelqu'un qui serait dans une posture centrée sur elle-même ou qui prétendrait même en remontrer au maître et donc se mettre au-dessus de lui, donc vous voyez, tout ça, c'est pas très beau, loin de cela, elle voit avant tout en Marthe quelqu'un sur qui pèse la fatigue et qui pâtit d'un défaut d'organisation entre les deux sœurs. Et c'est tout cela qui aboutit au fait qu'elle se retrouve dans l'impossibilité d'entrer dans l'échange avec Jésus. Et vous voyez que cette lecture, elle interdit d'opposer Marthe et Marie comme si c'était deux figures qu'il fallait mettre en vis-à-vis et qui font contraste l'une avec l'autre. Mais au contraire, cette lecture, elle souligne la responsabilité commune qui les rapproche et qu'elles n'ont pas su ici mettre en musique pour accueillir Jésus ensemble. Je trouve cette lecture très intéressante parce qu'elle insiste sur le fait que l'accueil de la parole de Dieu et l'accueil du Seigneur, du don de Dieu, est une responsabilité qui nous revient à nous tous ensemble et qu'elle s'avérera possible pour tous ou non, selon la qualité des liens que nous aurons tissés. Voilà. Je signale aussi au passage que ce livre montre comment l'or s'y prend pour écouter ce que disent les membres de la Fraternité Saint-Martin. Et à plusieurs reprises, tu commandes de manière très précise un paragraphe, quelques lignes, en visualisant les termes employés, en visualisant leur agencement, en montrant la structure d'ensemble et le sens qui s'en dégage. Et c'est fait avec beaucoup d'attention, beaucoup de finesse, et la manière dont c'est présenté est parlante pour le lecteur. Voilà, donc beaucoup d'intérêt aussi sur une manière de travailler, une méthode, on pourrait dire, hein, qui est rendue, que tu montres dans ce livre. Alors, si j'avais à relever telle ou telle question théologique qui surgit à la lecture de ce livre, j'aimerais bien parler de théologie sacramentaire. Laure, tu as surtout parlé du rapport entre les repas et le royaume, et de mon côté, je vous propose, je crois que dans ce livre, il y a aussi de quoi réfléchir sur le rapport entre ces repas et le sacrement, notamment de l'Eucharistie. Alors, en préambule, je vous propose d'entendre ce que dit Patrick après avoir participé à un festival Saint-Martin. C'est page 21 dans le livre. Voilà ce qu'il dit. Je suis en train de penser à un truc. Quand Jésus a pris du pain et qu'il a donné le pain à tous ses disciples, à tout le monde, comme ils étaient pauvres, le dernier soir où ils étaient tous regroupés, il a donné du pain à chacun. C'est un peu la même chose, comme on partage tous ensemble à la Saint-Martin. Dieu a partagé son pain aussi. Voilà, je vous fais entendre ces paroles qui, à mon sens, on peut y entendre un lien entre l'Eucharistie et les repas partagés comme celui des fraternités Saint-Martin. Car je crois effectivement que ces repas partagés disent quelque chose de l'Eucharistie, l'annoncent en quelque sorte. Je souligne quelques éléments formels dans ce que dit Patrick. Tout d'abord, une chose un peu étonnante, il parle de ceux qui sont présents à la scène comme de pauvres. Il dit que quand Dieu a pris du pain et qu'il a donné du pain à tous ses disciples, à tout le monde, comme ils étaient pauvres. Voilà. Qu'est-ce qui lui fait penser cela? Peut-être, tout simplement, le fait de recevoir à manger. Accepter du pain d'un autre, ben, ça suppose qu'on en ait vraiment besoin, et peut-être, on peut dire, ça suppose qu'on soit pauvre. Voilà, c'est un premier point. Deuxième chose, Patrick insiste sur le fait que les disciples sont tous regroupés. Le rassemblement est pour lui un trait essentiel de ce repas avec Jésus. Troisième chose, Patrick fait le parallèle entre le partage des fraternités Saint-Martin et le partage que Dieu lui-même fait de son pain. Je trouve cette expression très belle. Si on regarde comment ça se présente dans ce qu'il dit, Il dit d'abord que Dieu, il a donné le pain. Mais à la fin du passage que j'ai lu, ça devient « Dieu a partagé son pain ». Vous voyez, on est passé du verbe « donner » au verbe « partager ». Et le pain est devenu son pain. Et entre les deux, il y a eu cette phrase, c'est un peu la même chose quand on partage tous ensemble à la Saint-Martin. C'est comme si l'évocation du partage de la Saint-Martin avait conduit au partage du pain de Dieu, au partage que Dieu fait de son pain. Voilà un très bel exemple, il me semble, d'éclairage réciproque entre Eucharistie et repas partagé, où l'on voit comment l'expérience des repas permet d'entrer au cœur de l'Eucharistie. Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à magnifier l'Eucharistie, avec le risque de l'isoler du reste de la vie, tellement on en fait une sorte d'objet sacré, quand on insiste unilatéralement sur la présence du Christ, en laissant de côté ce que les pères de l'Église pourtant mettaient eux au premier plan. L'Eucharistie nous fait devenir, nous, corps du Christ. Elle nous invite d'abord à cela, et elle le fait en nous ouvrant le chemin de sa Pâque. Or, ici, en montrant tout ce qui se passe autour des repas et au cours des repas, et dans les textes bibliques commentés, mais aussi autour des tables ouvertes paroissiales, le livre de l'or montre clairement que ces moments participent déjà de l'accueil du don de Dieu. On pourrait dire, ces repas partagés annoncent la Pâque du Christ. Ils annoncent pas seulement la scène, mais l'ensemble, la Pâque du Christ, passion et résurrection comprises. Car ces repas, ils parlent d'une résurrection par-delà ce qui déchire l'humanité, par-delà les violences qui ont été commises, par-delà les peurs que nous avons, par-delà la confiance qui a été mise à mal, ou les accusations qui contraignent chacun à rester chez soi. Et pour affronter tout cela, il faut quelqu'un qui ait ouvert le chemin. Il faut quelqu'un qui n'ait pas eu peur ni de la mort, ni de la violence, ni de l'humiliation de la croix. Les repas partagés, quand ils sont vraiment partagés, indiquent cela. Ils pointent vers cette promesse que nous avons reçue du Seigneur, qu'un chemin de retrouvailles et de réconciliation est ouvert, a été ouvert, grâce à la Pâque du Christ. Parfois, on critique ceux qui donneraient trop d'importance à la convivialité dans les récits évangéliques, en soulignant que quand même l'Eucharistie c'est bien autre chose que des retrouvailles autour d'un bon repas. C'est vrai, mais justement ce que montrent aussi bien les récits évangéliques que les tables paroissiales, c'est que ces retrouvailles n'ont rien d'évident, et qu'elles supposent et appellent quelqu'un qui s'est risqué à affronter ce qui nous maintient éloignés les uns des autres. Alors ces repas sont à la fois un chemin qui annonce ce qui nous est donné dans l'Eucharistie, et en même temps, ils peuvent être regardés comme un fruit de l'Eucharistie et un fruit de la Pâque du Christ. Voilà. À partir de ton livre, Laure, j'aurai aussi une question de type pastoral. Et c'est aussi une question peut-être que, à laquelle Brigitte pourrait répondre aussi. Parce que ce qui est partagé là, dans les tables ouvertes, qui est un véritable trésor, je trouve, est-ce que ça reste finalement surtout l'affaire des chrétiens déjà engagés auprès de ceux qui connaissent de grandes difficultés sociales, ou bien est-ce que ça peut être aussi l'occasion pour des chrétiens qui n'ont pas la disponibilité ou pas tellement le goût de partager le chemin de leurs frères et sœurs plus pauvres, est-ce que ça peut être pour ces personnes-là aussi l'occasion de s'asseoir à leur table? Car je vois ici un rendez-vous très important pour les chrétiens, et une occasion de recevoir l'Évangile dans la force des transformations qu'il permet. Dans l'Antiquité chrétienne, dans l'Antiquité tout court, les chrétiens se réunissaient pour le temps de l'agapé. On en a des descriptions chez Tertullien, 3e siècle. C'était un temps de prière qui correspondait au lucernaire, donc sans doute un temps de prière qui ouvre au dimanche, voilà, qui nous met dans l'attente du dimanche. Et Tertullien décrit assez précisément ces rencontres. Il indique que ça se passe dans les maisons des chrétiens et que ceux-ci sont invités, ils sont incités à inviter les pauvres qu'ils côtoient pour ces temps de repas partagés. Comme si le repas qui préfigure les retrouvailles de l'Eucharistie ne pouvait pas se faire sans être traversé par les fractures sociales, signifiant ainsi qu'on se refuse à en prendre son parti, et en même temps qu'elles peuvent entendre la promesse d'un dépassement, la promesse de vraie réconciliation. Or, je crois que ce genre d'expérience nous transforme, autrement qu'une catéchèse qui nous introduit à l'intelligence de la foi. Parce que ce qui bouge alors au cours de ces repas, ce n'est pas seulement l'intelligence, mais c'est aussi tout l'être qui se trouve déplacé parce qu'il est entraîné vers un autre point de vue sur l'existence et le monde. On pourrait dire que ça nous fait l'effet d'être pris par la main et conduit sur un chemin nouveau dans des paysages qu'on découvre et qui souvent étonnent. Cela participe, je crois, d'une conversion, mais dans un mouvement qui nous travaille non par la tête, mais peut-être d'abord par le corps. Et dans un repas, évidemment, le corps est bien sollicité en premier. Le corps est invité à ce déplacement et à ce changement de perspective. Je me demande si la conversion à laquelle le pape François nous a appelés toutes ces dernières années, je me demande si cette conversion, pour être effective, ne nous invite pas vraiment à faire ce genre d'expérience et à le partager largement dans l'Église. Voilà. Et alors du coup, la grande question, c'est comment faire pour que le plus grand nombre de chrétiens possible aient la chance de s'asseoir à la même table que les pauvres. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ces tables partagées. Merci Laure pour ta réflexion. Voilà.
Merci beaucoup Étienne. Nous allons entendre un troisième et dernier extrait d'une des conversations commentées par Laure.
Voici deux commentaires à propos de la parabole en Luc 14. Voilà ce que dit Marjorie à propos de la réponse des invités qui refusent de venir et des pauvres qui se laissent inviter. Alors c'est Marjorie qui parle. En fait, les pauvres, les estropiés, les aveugles, ils ne sont pas intéressés. Ils viennent parce que c'est chaleureux, c'est convivial. Ils ne viennent pas parce que ceci, il y a cela à manger, il y a de l'argent. Parce que la famille, ils viennent parce que voilà, il y a des richesses de ceci, de cela. Donc, eux, en retour, ils peuvent offrir un dîner ou autre. Mais ils ont d'autres occupations pour l'instant. Alors que eux, ils vont venir à l'invitation, à cœur joie. Ça va être convivial. Ça ne va pas être « discutons affaires ». Discutons ceci, discutons cela. Ça va être, je suis content. C'est gentil de m'avoir invité. Ça me permet de ne plus être au froid et d'être dans un environnement au lieu d'être isolé. Et voilà ce que dit Christelle à propos du repas du royaume en Luc 14, 15. En entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas du royaume de Dieu. » Ce repas, c'est le partage de tous les jours, partager son festin. Ce n'est pas juste quand il y a une fête, quand il y a la messe le dimanche. C'est heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu tout le temps. c'est-à-dire avoir ce cœur charitable, ce regard posé sur son frère, peu importe qui il est ou d'où il vient, d'être ensemble comme à la fraternité finalement. Le royaume de Dieu, c'est ça. C'est ce repas-là. C'est d'être ensemble. C'est maintenant, ça se partage maintenant. C'est quelque chose qui se vit maintenant dans l'amour, la fraternité et ce qu'on peut recevoir. Donner à l'autre sans attendre en retour. Aimer son prochain comme soi-même. C'est ça, participer au repas. Ce n'est pas attendre.
Dans un instant, nous allons conclure ces interventions et avoir un temps d'échange avec vous dans la salle et avec vous qui êtes en ligne. Mais avant cela, j'invite Marc Leboucher à prendre la parole. Marc Leboucher, vous êtes le directeur littéraire des éditions Salvator. Nous serions heureux que vous puissiez nous dire quel sens cela a eu pour vous et pour les éditions Salvator de publier cet ouvrage.
Merci alors d'avoir organisé cette soirée et merci à ces trois intervenants autour d'elle. Effectivement, parce qu'il est question de Zoom. Et en effet, pour une maison d'édition religieuse comme la nôtre, Salvator, qui a un programme littéraire, un catalogue assez diversifié, hein, aussi bien des livres de témoignages, beaucoup de livres de spiritualité, de prières, un peu d'histoire aussi, il est important de continuer à proposer des ouvrages de théologie. Alors c'est vrai que la théologie, c'est moins facile pour trouver aujourd'hui un public et rendre les livres viables aussi. Mais cette importance de la réflexion, d'un travail de retour, d'examen d'un certain nombre de questions nous semble essentielle. Alors quand en plus on dit que la théologie, ça touche au thème de la pauvreté, c'est encore moins facile parfois à diffuser, il ne faut pas se le cacher. Mais c'est aussi une réalité importante qu'il faut prendre en compte. Alors quand c'est vrai que le public pense théologie, spontanément on va penser dogme, on va penser repères, certitudes. C'est important également, bien sûr. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'avec la montée du phénomène des catéchumènes, je crois, on va aussi avoir à prendre en compte cette question de la formation et dans le domaine de la foi et même de premières initiations. Mais la théologie, c'est aussi effectivement une réflexion à partir de pratiques, à partir du donné de l'expérience humaine, à partir d'un certain nombre de nos pratiques ecclésiales ou plus largement. Je pense aussi à ces théologiens, théologie pratique qu'on a pu connaître autrefois, les grands ancêtres comme Henri Bourgeois, pour avoir au début de ma carrière d'éditeur travaillé avec lui, il a eu cette idée un peu, ce concept des recommençants, par exemple. Voilà, ça c'était typiquement de la théologie pratique. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis tout ce travail de solidarité à partir de diaconia ou des initiatives de top, comme on dit dans les diocèses, ou de café solidaire, eh bien, on est amené à cette réflexion vraiment entre le terrain, les textes évangéliques, comme on le voit ici dans le livre de l'or, et puis un certain nombre de réalités théologiques. Donc, importance de la théologie, importance de la théologie pratique. Et moi, je suis fier d'avoir pu aussi inclure ce livre dans notre grande collection de Salvator, la collection Forum, qui dit bien ce qu'elle veut dire, un nom latin qui signifie aussi le débat. Collection, qui a su accueillir aussi bien des gens comme Christophe Théobald ou Bernard Cesboué, et puis bon, Étienne Grieux, une ou deux reprises. Et puis, je pense aussi au travail qu'on a pu faire autour de la. Vraiment de ce souci de donner une parole aux pauvres et ce très beau livre que Marie-Vonne, vous avez, je crois, vraiment beaucoup travaillé, ce Prière écrite d'en bas de Marie-Noëlle Nachard, qui est voilà, elle a donné la parole à une personne qui vit la précarité. C'est un petit livre. C'est aussi fort que des psaumes. Hein. Faut vraiment le dire, je le souligne parce que Madame Caillot a beaucoup travaillé sur ce petit ouvrage. Je pense aussi à un ouvrage qu'on a fait, alors là, qui est plus de l'ordre de témoignage, de Brigitte Lips, qui s'intitule Mamie Charge, qui est le témoignage d'une femme qui, dans la jungle de Calais, aide les migrants en rechargeant leur téléphone portable. Voilà, ça, c'est du concret. Alors, c'est pas un livre de théologie, mais c'est une pratique bien intéressante. Enfin, j'aurais envie de souligner aussi un thème qui m'est cher, comme éditeur, mais d'abord comme chrétien, c'est effectivement cette symbolique forte du repas, de la nourriture dans notre tradition chrétienne, comme si on se souciait dans l'acte de donner à manger à l'autre de sa propre précarité, de sa propre survie. Et c'est vrai qu'avec cette insistance sur l'incarnation, il me semble que ce signe est très 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 fort. Hein. Le Christ choisit un signe extrêmement concret pour évoquer le don de lui-même. Ça m'a toujours beaucoup parlé. J'ajouterais qu'ils ont eu l'occasion, comme beaucoup d'entre vous peut-être, de participer à ce type de rencontre. Une chose qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens concrètement qui ont faim, vraiment, hein, et que on apporte de la nourriture, on partage, il n'en reste plus à la fin. Et peut-être que nos sociétés, elles ont oublié aussi l'expérience de la faim, avec toute cette abondance, cette consommation. Donc, réintroduire cette symbolique-là pour ouvrir au don de ce eucharistique, au don de soi, vraiment, je crois que c'était indispensable. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux de pouvoir, avec Salvatore, publier l'ouvrage de l'or.
Merci beaucoup. Voilà, ce soir, nous sommes les auteurs d'un co-miracle, parce que nous avons pris un tout petit peu moins de temps que prévu pour les interventions, ce qui nous laisse un bon temps maintenant pour échanger avec vous ici. Merci Marie Desanges de bien vouloir faire circuler le micro, et puis avec vous qui êtes à distance. Alors pour vous qui êtes à distance, si vous souhaitez poser une question, il faut l'écrire dans le chat et je me chargerai de la lire. Peut-être avant qu'une première personne lève la main dans cette salle, je relaie à toi Laure et à toi Brigitte aussi la question d'Étienne. Ce qui est partagé dans les tables ouvertes paroissiales, est-ce que c'est l'affaire des chrétiens déjà engagés, ou est-ce que ça peut être un chemin pour des chrétiens qui ne sont pas encore engagés auprès des plus pauvres? Et j'ajouterai sournoisement une deuxième question, est-ce que c'est seulement un repas pour des chrétiens?
Le samedi dernier, nous étions ensemble avec Brigitte à Tours. Il y avait la rencontre pour la province apostolique de Tours, de tous les groupes de diaconie, de partage de la parole, les groupes du réseau Saint-Laurent. Et donc, nous avons bien sûr eu un repas tous ensemble, un repas partagé. Et Brigitte avait proposé à un certain nombre de personnes qui servent au Noël pour tous, qui sont des gens qui sont assez loin de l'Église, de venir pour servir et préparer le repas. Ils avaient préparé une salle à manger avec des nappes magnifiques, des fleurs. Et ils ont servi tout le repas. Les personnes en fragilité étaient tellement touchées d'être servies. Il y avait quelqu'un à ma table qui a dit « On est comme des princesses, avec des soleils dans les yeux. » Et à la fin, donc nous sommes partis pour le pèlerinage jubilaire à la basilique Saint-Martin. Et Brigitte est restée pour ranger avec eux. Elle va raconter la suite.
Je raconte même avant. Le matin, on avait le partage de la parole et les bénévoles les cinq bénévoles de Noël avaient fini de préparer la salle. J'aurais dit, si vous voulez, vous venez avec nous. Et il y en a une qui est venue avec nous écouter notre partage de la parole. Et elle a posé plein de questions, ça l'a beaucoup intéressée. Et elle a dit, mais qu'est-ce que vous faites? De quoi vous parlez? C'est quoi le paradis? Voilà, c'était très intéressant. Et sinon, après le repas, ils ont bien travaillé, ils ont bien rangé, fait la vaisselle, etc. Et ils ont été vraiment contents. Et ils m'ont dit, tu nous réinvites quand tu veux, on viendra servir. Et du coup, ils se connaissaient pas tellement entre eux. Ils avaient servi une fois Noël, mais ils étaient 70. Et ils ont fait équipe, ils ont dit c'était super notre équipe et voilà. C'est des gens qui reviendront dans une dans quelque chose qui est l'Église, voilà, facilement. Et ce que je remarque à Noël dans tous les bénévoles qui se proposent, il y a beaucoup de gens qui sont loin de l'Église, oui, mais qui me disent ben, on est tout seul. Voilà, ils n'ont pas une raison forcément de fêter Noël à l'Église, mais du coup ils disent c'est vrai, j'allais à l'Église avant, parce que je leur demande toujours est-ce que vous voulez aller à la messe à 9h, parce que moi je dois composer avec les gens qui vont à la messe et ceux qui restent pour la soirée, pour accueillir les personnes. Et je leur dis, je vous pose la question, mais c'est juste pour organiser. Et du coup, ils parlent beaucoup de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes, voilà. Et il y en a qui disent, ah ben je reviendrai peut-être à la messe, oui je viendrai. Et une année, j'étais à côté d'une dame qui m'a dit, ça veut dire quoi, vêpre? Et puis elle me demandait des choses qu'elle entendait, voilà, mais les gens participent à la messe. Je ne sais pas ce que ça apporte après, mais voilà.
Et je peux ajouter que souvent les gens vont commencer à venir à un partage de la pierre d'angle ou à un partage dans un des groupes du réseau Saint-Laurent. Ils savent pas très très bien ce qu'ils viennent chercher. Mais quelqu'un leur a dit, si tu viens là, tu vas voir, on est bien. Et puis, ou bien, là, tu peux être toi-même pour parler de Jésus, il y a personne qui va te juger. Et au gré de ce qui se passe, une sorte d'apprivoisement mutuel va advenir, et même des gens qui n'ont pas du tout les mots, soit à cause de la situation de précarité qui fait qu'ils ont plus eu accès à l'éducation, soit parce que c'est des gens qui sont très loin des milieux ecclésiaux, bah, quelque chose va se tisser d'une aisance, mais à partir de la convivialité, à partir de la fraternité.
Merci beaucoup à toutes les deux. Si vous souhaitez que le micro arrive jusqu'à vous, vous pouvez lever la main pour poser une question. Et pour vous qui êtes à distance, vous pouvez écrire dans le chat si vous le souhaitez.
Excusez-moi, je suis sur la basilique, donc maintenant c'est une basilique depuis le 12 janvier Notre-Dame de Boulogne. Et j'ai un jour participé à aider au groupe Fratello. Donc c'est un peu comme vous, j'ai aidé des pauvres gens dans la rue à faire préparer le repas. On était tout un groupe, donc c'est un peu le même système, votre fraternité. Fratello, voilà, c'est assez connu, je ne sais pas si vous connaissez. Bon voilà, c'est ça que je voulais vous dire, il y en a un peu partout. Mais c'est vrai que ça donne beaucoup de... J'en suis sortie, je veux pas dire grandie, mais ça donne beaucoup de joie, voilà.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre réaction ou question ?
Merci beaucoup. Moi, je suis très touché, évidemment, par les paroles des pauvres et ce qu'ils nous disent, comme vous l'avez illustré. Je voulais revenir sur une chose. Si je caricature un peu ces repas partagés, j'en ai vécu un certain nombre avec des gens très cassés. Il y a d'un côté, comme vous l'avez dit, Brigitte, le bon paroissien ou bénévole qui arrive pour rendre service, mais qui n'a pas tellement envie de s'asseoir à la table. Vous l'avez très bien raconté. Mais de l'autre côté, il y a le précaire, surtout quand il est très précaire et qu'il vient pour la première fois, vous l'avez dit rapidement, mais il vient pour déjeuner, pour manger, pour être au chaud, pour se nourrir. Il vient pas pour partager, il sait que l'ambiance, bon, sera plutôt sympa, mais il vient surtout physiquement pour se partager et pour se nourrir. Et ils vont tous les deux être transformés. Et là où je m'interrogeais, c'est sur le lien avec l'Eucharistie. Finalement, c'est un peu comme des chrétiens qui viennent à la messe tous les dimanches consciencieusement. Peut-être qu'ils savent déjà qu'ils vont être transformés et convertis par ce qui va se passer, mais peut-être qu'ils savent pas ce qui va se passer et qu'ils vont entendre une parole et puis que l'Eucharistie va les transformer. Donc voilà, c'était juste, je sais pas.
Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question qu'on prendrait dans la foulée? Oui.
Bonsoir. J'anime une table ouverte paroissiale dans l'Est parisien, à Bondy. Et j'étais très séduit par le terme de co-miracle, voilà, de ce que vous avez. Parce que nous, au début, la veille, on préparait tout, et comme ça, le jour, c'était tout prêt. Et puis aujourd'hui, on prépare plus rien. Voilà, et on arrive le jour même, et ça donne la capacité à chacun de pouvoir participer à son niveau. Et je trouve que c'est très beau de donner la capacité de participer, voire de prendre des responsabilités. J'ai des exemples très précis, y compris pour faire la vaisselle. Mariette, je pense qu'elle a bien 75 ans. Elle marche mal, mais c'est elle qui fait la vaisselle. Et c'est super important pour elle. Voilà, je pense à Yves, un Congolais. Dimanche dernier, il a annoncé en chaire que voilà, au mois de juin, la table ouverte de juin, c'est lui qui allait coordonner une équipe pour préparer le repas, exceptionnellement. Je pense que ça fait bien 5 ans qu'il participe à la table. C'est la première fois qu'il monte en chaire faire une annonce et ça tremblait de partout. Et ben ça, je trouve que c'est des vrais. Voilà, on donne place au co-miracle. Moi, ça m'a beaucoup parlé. J'avais jamais pensé ça comme ça, mais je pense que c'est un peu ça qu'on vit. Et la deuxième chose que peut-être un mot que je rajouterai à ton témoignage, Brigitte, c'est fêter. Tu en as parlé des anniversaires. Et dimanche dernier, Dominique, on a fait 2 anniversaires dimanche dernier à la table. Et c'était vraiment très festif. Alors Dominique, à la fin du repas, il est venu me voir. Claude, faut que tu mettes dans ton agenda. Moi, mon anniversaire, c'est le 8 octobre. On est au mois de mai. Donc, c'est le 8 octobre. Mais j'ai un gros problème. Ça tombe pas un dimanche. Comment on va faire? Et donc, on est souvent étonné de ce qui nous est dit, parce qu'on s'y attend pas, quoi. Et même après 8 ans, il y a encore des questions qui nous surprennent. Ça tombe à mardi, comment on va faire? Parce que, voilà. Et donc, c'est, ouais, je pense que c'est beaucoup de petits miracles, de petites intentions incroyables. Et merci pour ce terme de co-miracle. À mon avis, il y a quelque chose de très vrai.
Merci beaucoup. Un temps pour poser d'autres questions, mais peut-être déjà, Laure, on te laisse réagir à celles qui viennent d'être dites ou aussi aux remarques qui ont été faites.
Alors, par rapport, je vais les prendre en remontant. Donc, par rapport au co-miracle, hein, l'auteur de ce concept est Vincent. On peut garder Vincent dans notre cœur. Je pense que c'est très important la bascule que vous avez faite. La veille, on prépare tout. Maintenant, on prépare plus rien. Et on co-construit, on invente ensemble le repas et ce qui advient. Ça fait venir quelque chose qu'on disait de 17h à 19h. Là, j'étais avec les étudiants du deuxième cycle. Il y en a plusieurs dans la salle. Et on travaillait sur ce décryptage avec la question du co-miracle. Et on parlait sur la circulation des dons et d'accueillir tous les dons et qu'on a besoin des dons de chacun pour construire la communion. Donc ça, on a mis ça fort en avant, mais j'entends quelque chose de cet ordre-là dans ce que vous avez partagé. Et par rapport à celui qui, depuis 5 ans, participe à la table ouverte et qui, pour la première fois, a osé aller parler au micro, là, et que ça tremblait... Ça, c'est quand même un miracle. Qu'une personne très fragilisée ose aller devant tout le monde, être regardée par tout le monde, être écoutée par tout le monde, par toute l'assemblée paroissiale, parce qu'il va parler, alors que l'habitude, c'est qu'il est transparent, il est invisible, personne se rend compte qu'il est là. Donc quelque chose d'une transformation radicale, mais ça suppose de sa part d'avoir fait tout un chemin de confiance très impressionnant qui est probablement permis par la qualité de la forme de communauté que vous faites autour de ces repas que vous vivez ensemble. C'est porté par le corps de ceux qui partagent le repas, le corps ecclésial. Que ça le fortifie à l'intérieur. Ouais, je dirais ça. Et par rapport à fêter, je dirais que c'est quelque chose vraiment de l'ordre de célébrer le royaume déjà. Quand on fête les anniversaires, c'est quelque chose de cet ordre-là, je crois. Ouais. Alors par rapport à être transformé, oui, je pense que tous sont transformés dans le cadre des repas partagés. Les bénévoles comme les personnes... D'ailleurs, les bénévoles, tout le monde n'est pas en facilité sociale dans les bénévoles. Enfin, en tous les cas, à Tours, souvent, les personnes, pendant 2-3 ans, vont être accueillies. Et puis, tout d'un coup, ils vont dire, « Non, mais moi, j'ai beaucoup reçu, je veux aussi tendre la main. » Et donc, dans les bénévoles, ça va aussi être mélangé dans ceux qui vont être au service des autres. Il me semble qu'on peut aussi dire ça. Hein. Ouais. Et donc, tout le monde est transformé. Et par rapport à l'expérience de l'Eucharistie, oui, être transformé par la parole de Dieu, être transformé par ce qui advient dans les processions, dans ce que le prêtre va commenter, dans parfois un geste de paix qui vient nous rechercher dans un moment. Mais peut-être qu'Étienne dira plus de choses autour de l'Eucharistie après. Et par rapport au partage que vous faisiez sur votre expérience, je crois que c'est important et heureux et que ça nous consolide d'avoir des lieux où on peut nommer ces grâces de fraternité qui nous sont données de vivre. Et du coup, prendre le moyen de trouver des lieux de relecture et de partage de ces belles expériences de royaume qu'on fait. Sinon, ben juste, ça reste là, puis ça nous construit pas vraiment à l'intérieur. Donc, prendre le temps de ça. Ouais. Merci.
Non, simplement, à partir de ce que vous disiez sur l'analogie entre les repas partagés et l'Eucharistie, moi, ce que j'avais entendu, c'est que on peut venir aussi bien à repas partagé qu'à l'Eucharistie, sans attendre grand chose finalement. Hein. Et peut-être qu'il y a une sorte de simplicité. Moi, je le dirais tout spécialement pour les repas. Le repas, c'est quelque chose. On peut inviter quelqu'un à un repas. Disons, c'est tout simple, quoi, voilà. Et en entendant tout à l'heure Brigitte qui disait, à partir des maraudes, on peut inviter à un repas. Mais c'est vrai qu'à partir des maraudes, disons, l'étape maraude repas est relativement facile. Enfin, voilà. Par contre, inviter à un passage maraude, partage de la parole de Dieu, alors là, ça sera un truc beaucoup plus difficile. Et le repas, il a cette qualité-là, c'est qu'il a, ça peut paraître quelque chose de tout simple, voilà. Alors on pourrait dire, est-ce qu'on peut vraiment dire ça de l'Eucharistie, que c'est tout simple? Je sais pas, mais disons, en tout cas, c'est vrai que souvent, on peut le vivre aussi comme quelque chose, comme vous disiez, d'habituel, et donc dont on n'attend pas grand chose finalement, qui aurait aussi cette même simplicité-là. Voilà. Mais dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que on peut être surpris à un moment donné, et pour peu qu'on dresse une oreille ou quelque chose comme ça, il peut se passer des choses vraiment fortes. Voilà. Mais il peut aussi ne pas se passer grand-chose. Parce qu'on peut y aller, comme vous le disiez, sans attendre grand-chose. Voilà.
Merci Étienne. Parmi les plusieurs questions en ligne, il y en a deux sur le vocabulaire. Une première, c'est qu'on a utilisé le mot inhabituel de commensalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, Laure, tu as parlé de convivialité et de fraternité. Est-ce que c'est pareil? Comment on passe de l'un à l'autre?
Alors, commensalité, j'aurais dû définir ça, excusez-moi. Mensa, en latin, c'est la table. Et cum, donc c'est avec. Donc, la table ensemble, la table avec, manger ensemble. Voilà, donc c'est pas forcément les repas partagés ecclésiaux, mais c'est le fait de manger ensemble, hein, la commensalité. Et alors, convivialité et fraternité. Est-ce que c'est la même chose? Non, je ne crois pas. Convivialité, c'est vivre ensemble. Et j'entends derrière une note de joie d'être ensemble. Et la fraternité, ben, on choisit pas forcément ses frères et sœurs, hein. Parfois, ça frotte. Enfin, on a tous cette expérience-là avec nos frères et sœurs, hein, tous ceux qui ont la grâce d'avoir des frères et sœurs. Mais Mais quand même, dans la fraternité, on décide de tenir ensemble, quels que soient les frottements, les obstacles, les moments où on n'arrive plus à supporter, de tenir ensemble. Et donc je crois qu'on est invité à tenir et convivialité et fraternité en Église, les deux.
Il y a plusieurs questions en ligne, mais avant, si jamais il y a une ou deux questions qui viennent de cette salle, c'est le moment de vous signaler.
Claudine, c'est juste un petit témoignage. Hein, de...
Claudine, bien fort. Et si tu veux, tu peux venir ici si c'est pour donner le témoignage. Viens devant, si tu veux bien. Si tu veux bien. Oui, elles sont là, toutes les deux. Viens, Claudine. Voilà. Tu te tournes, voilà, super.
Bonsoir à tous. C'est juste un petit témoignage. Merci à vous tous, surtout ce soir, que je retrouve le chemin que j'avais perdu. C'est grâce à vous que je retrouve ma foi. Et merci alors.
Voilà. Merci beaucoup Claudine. Marie des Anges, je crois qu'une autre personne souhaitait intervenir avait levé la main. Voilà.
Merci beaucoup. Donc Caroline, de la paroisse du Puteau, où on a un repas partagé depuis 10 ans, enfin une table ouverte paroissiale, pareil au sein du secours, enfin lancé conjointement paroisse et secours catholique. Et nous vivons deux éléments, peut-être un essoufflement de cette table ouverte paroissiale. Vous l'avez un peu mentionné, peut-être à la suite de Diaconat 2013, un grand élan, et peut-être que là ça s'essouffle. Donc comment retrouver un peu le souffle de l'élan? Et parfois nous, il y a un aspect où certains paroissiens ou personnes isolées ne viennent pas, parce que entre guillemets c'est la table des pauvres, et donc de changer la vision de ces repas n'est pas toujours évident entre avoir une vraie mixité sociale. Voilà.
Merci beaucoup. Poser la même question que Hervé en ligne, donc c'est parfait. Et j'ajoute une question en ligne aussi, c'est que une expérience d'une paroisse qui organise une table ouverte le soir de Noël pour des gens de la rue, personne ne vient. Alors comment on crée la confiance, cette personne pose cette question. Comment on fait pour que les gens se sentent en confiance pour venir?
Comment faire la confiance? Ben, c'est de la fidélité, c'est de l'invitation parce que on a appris à les connaître. La confiance, ça se crée, c'est long. Hein. Ils viennent pas du premier coup. Il faut les inviter, les réinviter. Et puis, nous, ce qui marche beaucoup, c'est le bouche à oreille. Une fois qu'il y en a qui sont venus, ils disent « bon, allez, viens », et ils emmènent les autres. En fait, c'est ça qui est très important. Mais... Je sais pas. C'est la confiance, il faut du temps. Je pense ça s'apprend, ça se travaille beaucoup.
Et aussi ce que j'observe par rapport à aussi bien par rapport à la question de l'essoufflement que par rapport à ce Noël où personne ne vient. Si je prends l'expérience du groupe de Pierre d'Angle qui est en train de grandir à Beaugency, l'endroit où j'habite maintenant, en fait, ce n'est pas du tout moi qui fais ça. C'est les personnes en fragilité elles-mêmes à qui je dis, écoutez, si vous vivez des choses bonnes, c'est vous qui êtes les missionnaires, c'est vous qui pouvez parler dans votre milieu. Moi, les gens, je ne sais même pas les voir, je ne saurais pas les connaître. Mais vous, vous habitez dans les quartiers et vous savez repérer les personnes. Vous savez voir telle personne qui est en train de s'enfoncer, prêt à sombrer. Et donc, allez l'inviter, surtout. On a commencé à 3 dans le groupe de Pierre d'Angle. Aujourd'hui, on est 21. Moi, je n'ai invité personne. Les gens se sont invités les uns après les autres. Et pour Noël, pour tous, c'est pareil. Pour la fraternité Saint-Martin à Tours, c'est la même chose. Et avec ces histoires de table ouverte, Bien, si les plus aisés de la paroisse ne veulent pas venir, ils ressemblent étrangement aux premiers invités de la parabole en Luc 14. Je suis bien désolée pour eux. Mais continuons la fête.
Je voulais juste ajouter que j'avais été invitée à Toulon pour les 30 ans de la diaconie et ils avaient fait une relecture de leurs 30 ans de table ouverte paroissiale et il y avait beaucoup de groupes qui parlaient de leur essoufflement justement. Mais bon, il faut continuer, reprendre avec d'autres ou je sais pas, c'est un cycle en fait, mais ça peut continuer, il faut vivre dans l'espérance.
Merci beaucoup, on va arrêter notre échange sur cette note d'espérance. Alors c'est le moment des petites annonces paroissiales. Alors pour vous qui êtes dans la salle, il y en aura aussi pour vous qui êtes en ligne. Pour vous qui êtes dans la salle, sur votre chemin de sortie, vous trouverez le livre de Laure, donc « À table avec Jésus ». Et l'autrice n'étant pas loin, la dédicace n'est pas tout à fait impossible. Vous pouvez aussi participer aux frais. Si vous le voulez bien, pour soutenir les facultés Loyola Paris dans leur mission, il y a une urne à la sortie et il y a aussi un boîtier pour ceux qui préfèrent utiliser leur carte bleue. Pour vous qui êtes en ligne, je vais mettre tout de suite dans le chat un bon de commande pour que vous puissiez, si vous souhaitez, commander l'ouvrage de Laure. Voilà, il y est maintenant. Et si vous souhaitez que ce soit dédicacé, vous pouvez mettre votre nom et l'ouvrage vous sera envoyé avec la dédicace de Laure. On n'arrête pas le progrès. Et puis, si vous qui êtes en ligne, vous voulez bien aussi aider, soutenir les facultés Loyola dans leur mission, vous avez reçu un bon pour faire un don dans le mail qui contenait le lien vers cette soirée. Merci encore Laure, merci à Brigitte et à Étienne, et merci à vous tous et toutes de votre présence. Bonne fin de soirée.